Alors voilà, c'est le privilège de Yann Lehmann de nous apporter la parole, le message que Dieu a mis sur son cœur. Bien sûr, c'est lié au thème de l'ascension. Et j'aimerais encore prier pour toi. Eh bien, Dieu notre Père, j'aimerais t'apporter Yann afin que tu le bénisses, tu lui donnes les paroles que tu as mises sur son cœur, qu'il puisse les donner librement et que chacun d'entre nous, nous puissions aussi être à ton écoute. Merci Seigneur de nous bénir tous afin que ta parole mûrisse dans notre vie et porte du fruit. Amen.
Bonjour à chacun. C'est une joie pour moi d'être devant vous. Lorsque Claude m'a demandé de parler à l'ascension, je me suis dit « chouette, je vais pouvoir parler de l'ascension ». C'est vraiment super. Et je propose qu'on aborde ce thème de l'ascension à travers deux textes parallèles dans Luc 24 et Acte 1, écrits donc par le même auteur, par Luc, deux regards sur ce texte de l'ascension. Donc je lis. On parle de Jésus ici. Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc le texte en crochet, là, c'est juste que c'est absent de certains manuscrits. Et en Actes, alors qu'il, donc toujours Jésus, se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Jusqu'ici, notre lecture. Vous remarquerez dans les lectures d'aujourd'hui, qu'outre le thème central de l'ascension, il y a plusieurs autres thèmes qui sont mentionnés. Il y a une discussion à propos du royaume entre Jésus et les disciples. Et le texte aussi de Luc se termine aussi par une remarque importante. J'y reviens rapidement. Il y a une notion de joie, une notion de bénédiction, une notion de louange, très très importante aussi. Donc voilà les trois points que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, l'ascension, le royaume et la joie. On parle assez peu de l'ascension dans nos églises, je trouve. On parle beaucoup de résurrection, on parle beaucoup de la Pentecôte, un peu moins de l'ascension. Mais si on lit certaines confessions de foi, par exemple, le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople, auquel vous adhérez ou vous êtes censé adhérer si vous êtes membre de Villars, c'est marqué au début du règlement interne, nous adhérons au symbole de Nicée-Constantinople et au symbole des apôtres. Eh bien, on remarque, j'ai mis tout le texte, hein, c'est très dense, mais je voulais juste mettre en gras, on remarque qu'il parle du fait que Jésus monta au ciel, ce symbole de Nicée-Constantinople. C'est très important pour les premiers chrétiens, au point qu'ils l'ont mis vraiment dans ce qu'ils croyaient, que Jésus est monté au ciel. On ne parle pas de Pentecôte, mais on parle du fait que Jésus est monté au ciel. Donc, c'est un récit très important, mais en même temps, c'est un récit étrange, étrange et extraordinaire. Vous vous rappelez peut-être du message de Matthias Haeg, lorsqu'il a parlé de Jésus qui marchait sur l'eau, et il a dit qu'il trouvait ça spécialement extraordinaire, que c'était peut-être le miracle le plus extraordinaire qu'il connaissait. Moi, j'ai envie d'entrer dans la compétition avec lui et de dire, mais que penser alors de Jésus qui monte au ciel, quoi? C'est extraordinaire. Mais c'est étrange. C'est étrange parce que Dieu n'habite pas quelque part dans le ciel, et ça, on le sait bien. Vous connaissez peut-être cette phrase que l'on a attribuée à Yuri Gagarin, le premier homme à voler dans l'espace. Pendant qu'il volait dans l'espace, il dit « I don't see any God up here ». Je ne vois aucun Dieu ici. Donc ça, c'est ce qu'on lui a attribué. C'est faux, hein, c'est pas ce que lui a dit. C'est Nikita Khrouchtchev qui a dit ça dans une conférence anti-religion en disant « Il est allé dans l'espace, il n'a pas vu de Dieu là-haut ». Mais l'idée, elle y est bien. En fait, Dieu, il habite pas, il n'est pas assis quelque part dans un coin de l'espace ou du ciel. Il habite pas un endroit de l'espace où on devrait le trouver et aller le chercher quelque part dans ce ciel. Il faut distinguer, je pense, deux conceptions importantes du ciel. En premier lieu, je dirais le ciel qu'on voit, celui auquel on pense quand on dit « on voit le ciel » ou quand le psalmiste, dans le psaume 8, il dit « quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées ». Donc ce ciel-là, ce ciel qu'on voit, ça c'est une première conception du ciel, celle qui nous est le plus familière. Et d'autre part, il y a l'autre notion du ciel, celle qui représente la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Celle qui est appelée des fois « cieux des cieux » dans la Bible, en Néhémie par exemple, ou celle de la vision d'Étienne, qui, juste avant de se faire lapider, Étienne, il dit « je vois le ciel ouvert, je vois Jésus assis à la droite de Dieu », donc cette idée de la présence de Dieu. Et c'est important de comprendre ces deux notions de ciel pour comprendre pourquoi est-ce que Jésus s'élève. Donc, lorsque les disciples voient Jésus s'élever au ciel, c'est pas pour que Jésus il aille s'asseoir dans un coin du ciel. C'est pour signifier que Jésus il quitte ce monde terrestre, ce monde matériel, pour aller rejoindre le monde spirituel, le monde céleste, le monde de la gloire de Dieu. C'est la fin du ministère de Jésus, du ministère terrestre. C'est la fin de l'incarnation de Jésus. Et ce nuage que Luc décrit en acte, donc la nuée qui cache Jésus aux yeux des disciples, ça ne cache pas l'endroit où va Jésus pour retrouver Dieu, mais ça cache plutôt son changement de forme. Je m'explique. En fait, l'ascension, c'est à l'incarnation ce que la résurrection est à la mort de Jésus. Je répète, l'ascension est à l'incarnation ce que la résurrection est à la mort de Jésus. Par la résurrection, Jésus récupère la vie qu'il a volontairement livrée à la mort. Et de même, par l'ascension, Jésus y récupère sa vie ou sa forme céleste dont il s'est dépouillé en venant sur terre. Comme c'est si bien décrit par exemple par Paul, en Philippiens 2, les versets 6-7, lui, donc Jésus, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Donc, vraiment, c'est ce que Jésus signifie aux disciples par l'ascension, en partant comme ça au ciel. C'est que cette période d'incarnation où Jésus s'est abaissé en devenant semblable aux êtres humains, elle est finie. Jésus, il a accompli tout ce qu'il avait annoncé. Il est Dieu. Il retourne auprès du Père, comme on dit, mais c'est un peu un abus de langage. On devrait plutôt dire, il reprend ce dont il s'est dépouillé. Il reprend cette pleine gloire divine. Et ça, c'est le message central de l'ascension. Jésus est Dieu. Et on ne peut pas, s'il n'y avait pas l'ascension, on ne comprendrait peut-être pas autant bien la divinité de Jésus. Ce n'est pas simplement un homme qui a marché sur cette terre et qui était quelqu'un de bien. Jésus était Dieu. Et il retourne, et il le montre à travers l'ascension, il retourne à sa condition divine. Et Jésus, il ne laisse pas les disciples seuls. Il leur a annoncé la suite. C'est vrai que si les disciples se retrouvent là, en train de regarder le ciel, ils savent que Jésus ne les laisse pas seuls. Jésus a annoncé que le Saint-Esprit viendrait à la Pentecôte, qui serait leur témoin. Donc, vous remarquez que Luc, quand il décrit le récit de l'ascension, bien que ce soit un récit incroyablement important, primordial peut-être pour les premiers chrétiens, primordial pour nous aussi, bien que ce soit un récit si extraordinaire, le récit est assez court, il est assez succinct. Peut-être que si j'avais été à sa place, j'aurais décrit dans plus de détails, si j'avais eu plus d'informations, j'aurais dit plein de choses en plus. Mais Luc, il se contente d'un récit assez succinct et il met d'autres choses à côté de son récit de l'ascension. Et si on se rappelle que la Bible, c'est un récit, une sélection de récits qui sont sélectionnés, ce n'est pas tout ce qui a existé, c'est ce qui est dit aussi dans les évangiles, que si on devait raconter tout ce que Jésus avait fait, tous les livres de la terre ne suffiraient pas à le contenir. Ceci pour dire que la Bible, c'est qu'une petite sélection de ce qui se passe. Donc, quand Luc il a sélectionné ses récits, il voulait permettre à ses lecteurs de comprendre d'autres choses, pas seulement le message de l'ascension, mais qu'il y avait d'autres facettes intéressantes à côté. Et il veut attirer l'attention de ses lecteurs sur la compréhension des disciples du royaume, parce qu'il a placé cette discussion de Jésus avec ses disciples qui discutent du royaume juste à côté de ce récit de l'ascension. Donc, lorsque les disciples sont autour de Jésus, ils le questionnent à propos de ce que Jésus leur a dit en parlant du baptême du Saint-Esprit. Dans leur tête, ils associent la venue du Saint-Esprit avec la restauration d'Israël. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, est-ce à ce moment-là, Seigneur, que tu restaureras Israël? Maintenant que Jésus il est de retour, maintenant qu'il est ressuscité, ils reviennent à leurs idées de ce rétablissement d'Israël. Et on voit qu'ils n'ont pas encore tout à fait saisi ce que Jésus leur a dit lorsqu'il a parlé, par exemple, à Ponce Pilate, en disant, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, les disciples, ils veulent savoir si bientôt, ce sera ce moment qu'ils attendent tant de rétablissement d'Israël, que le Messie va apporter ce rétablissement incroyable. Et puis, ça peut être facile pour nous de leur jeter la pierre en se disant, mais avec tout ce que Jésus leur a enseigné à ses disciples, ils devraient bien avoir compris que leur conception du royaume, elle n'est pas tout à fait celle que Jésus voulait dire. Et ça peut être facile pour nous d'avoir cette attitude qui jugeons un petit peu leur comportement ou leur compréhension. Mais je pense que ce texte, il nous fait une grande leçon, c'est de dire attention aux lunettes théologiques qu'on porte quand on interprète ce que Jésus dit, quand on interprète ce que la Bible nous dit. Les disciples, ils avaient leurs lunettes de rétablissement d'Israël, comme ça, où ils voulaient voir les Romains qui partaient, enfin, toutes ces choses. Et ils... Dans toutes les paroles de Jésus, ils attendaient ça, ils l'interprétaient à la lumière de ses lunettes. Et ça peut nous arriver à chacun de nous aussi d'avoir des lunettes théologiques qui sont un tout petit peu faussées. Et je pense que ce genre de récit nous incite à avoir de l'humilité quand on étudie la parole de Dieu, à se dire, mais est-ce que mes lunettes théologiques sont les lunettes correctes? Est-ce que je comprends bien ce que Dieu veut me dire lorsqu'il me parle? Et donc, Jésus répond à leurs questions. Est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il répond à leurs questions, mais pas en termes de temps, pas comme les disciples l'espèrent. Jésus leur profite de cette question pour les enseigner. Il leur mentionne d'une part que c'est l'affaire du Père et pas des hommes. Savoir les choses, c'est savoir les temps à venir et les choses comme ça. Ça, c'est le Père qui sait et c'est pas l'affaire des hommes de connaître ce genre de choses. Il leur dit, vous êtes trop curieux, laissez au Père ce qui revient au Père. Ayez confiance. Et puis, Deuxième chose, Jésus y continue. Il continue en corrigeant leurs attentes à la suite de la venue du Saint-Esprit. À la venue du Saint-Esprit, ce ne sont pas les Romains qui seront expulsés d'Israël. À la venue du Saint-Esprit, voilà ce que Jésus dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le royaume de Dieu, sur cette terre, ce n'est pas un royaume comme les disciples l'imaginaient. C'est un royaume de témoins de Jésus. Un royaume qui commencera à Jérusalem avec la venue du Saint-Esprit, puis qui s'étendra en Judée, un peu plus loin, en Samarie, ceux qui sont considérés comme les faux adorateurs, ceux qui sont mal vus du peuple juif, et ça se terminera jusqu'au bout de la terre, avec tous les païens. Voilà, c'est là la part des disciples du Christ, nous inclus, être témoins, proches, loin, auprès de ceux qu'on aime ou pas, Jésus demande à ses disciples de témoigner. Voilà le royaume de Dieu sur cette terre. Et ceci, sous l'égide du Saint-Esprit. Vous remarquez que dans les textes, c'est vraiment l'arrivée du Saint-Esprit qui lance cette campagne de témoignage, on pourrait dire. C'est vraiment sous la responsabilité du Saint-Esprit envoyé par Jésus, ce Consolateur. Et c'est sur ces paroles que Luc décrit le départ de Jésus. Donc, il n'y a pas beaucoup de notions temporelles dans ces récits, donc on ne sait pas si ça se passe juste après ou pas, mais bref, il y a donc toute cette notion du royaume, cette correction de Jésus par rapport aux attentes du royaume, ces annonces de ce qui va se passer. Et ensuite, il y a ce récit de l'ascension magnifique, et le récit continue avec les disciples qui ne voient plus Jésus, qui sont le regard fixé au ciel, comme s'il devait encore se passer quelque chose. Revoir Jésus, par exemple, j'imagine que c'est ce qu'ils pouvaient espérer. Et il va effectivement encore se passer quelque chose, mais pas dans le ciel. Pas Jésus qui revoit, mais deux hommes en blanc qui arrivent et qui viennent commenter la scène. Luc ne dit pas que ce sont des anges, mais l'attitude, les hommes en blanc, ça le suggère très fortement. Et ils affirment, ces deux hommes en blanc qui viennent commenter la scène, ils affirment que Jésus reviendra. Que Jésus reviendra comme il est parti. C'est donc pour les disciples une confirmation que ce Jésus, leur maître, celui qu'il aimait tant, il est parti, il est retourné auprès de Dieu. Et que ça ne sert à rien de l'attendre, d'attendre les yeux fixés au ciel. Mais ces paroles, c'est aussi un encouragement. Un encouragement immense, parce que Jésus reviendra. Alors les anges, ou ces deux personnes, ne disent pas quand, ils ne disent pas du tout quand, ça c'est l'affaire de Dieu, mais il reviendra. Et ça c'est une certitude, il reviendra comme il est venu. Et ça pour les disciples, c'est un magnifique encouragement. Alors les disciples n'ont plus qu'à retourner à Jérusalem, comme Jésus le leur a demandé. Au vu des événements qui viennent de se passer, on pourrait penser que les disciples sont tristes et découragés. Mais c'est le contraire qu'on lit dans le texte. Dans la suite du récit et dans le récit parallèle de Luc 24, on apprend que les disciples persévèrent dans la prière, qu'ils adorent et bénissent Dieu, et surtout qu'ils retournent à Jérusalem remplis d'une grande joie, en Luc 24, les versets 52 à 53. Puis j'aimerais terminer ce moment par réfléchir aux causes de cette grande joie pour les disciples, grande joie que nous pouvons partager avec eux. Je vous propose de lire encore deux textes, en Jean 14, 28 et 16, 5 à 7. C'est Jésus qui parle. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. » Et le deuxième texte, toujours Jésus, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » On peut voir l'évolution entre ces versets dans lesquels on ressent la tristesse des disciples suite à l'annonce que Jésus dit de son départ et la joie qu'ils ont dans les textes qu'on a lus juste après l'ascension. Ils sont remplis d'une grande joie. Alors qu'avant, la joie que Jésus aurait voulu voir chez ses disciples, par exemple en Jean 14, 28, elle était absente. Et maintenant, elle est bien présente. Et ça, c'est une magnifique évolution dans la compréhension des disciples de ce que Jésus leur a enseigné, de finalement leur théologie. Et cette joie, elle peut être due à plusieurs causes. Et j'aimerais qu'on en mentionne trois ensemble. Trois raisons d'avoir la joie. D'une part, la venue du Saint-Esprit. Les disciples y voient que toutes les promesses que Jésus a faites s'accomplissent. Ils viennent d'assister à la promesse peut-être la plus incroyable, celle de Jésus qui disait « Mais je retourne auprès du Père, je m'en vais, je ne reste pas auprès de vous ». Ils viennent d'y assister. Une des dernières choses que Jésus avait dites, ils l'ont vu de leurs propres yeux, ils ont vu Jésus partir auprès du Père. Et du coup, ce que Jésus leur a dit après, il leur a dit « Mais c'est encore mieux pour moi que je m'en aille, parce que vous aurez le Saint-Esprit, vous aurez le Consolateur, c'est beaucoup mieux pour vous que je m'en aille ». Et donc, ils peuvent être dans la joie parce qu'ils savent que cette promesse va s'accomplir. Et nous, on peut partager cette joie, parce qu'on a le Saint-Esprit avec nous. On a cette relation directe avec Dieu. On n'est pas abandonné sur cette terre. Dieu est avec nous à travers le Saint-Esprit. Magnifique sujet de joie. Deuxièmement, ils savent qu'ils reverront Jésus. Jésus revient, c'est ce que les anges leur ont annoncé, c'est ce que Jésus leur a annoncé. Jésus va revenir, il reviendra victorieux et il prendra ses enfants avec lui, pour vivre éternellement avec lui. Quelle immense joie, quelle espérance de savoir que Jésus nous prépare une place auprès de lui pour l'éternité. Ça, c'est le message que Jésus a dit tout au long de ses évangiles, tout au long de son histoire. On aura une place auprès du Père. Jésus nous réconcilie avec lui et avec le Père. Et ça, personnellement, je pense que c'est une des plus grandes joies que je peux avoir, cette joie de se dire que je vais retrouver Dieu. On va tous retrouver Dieu. On va être auprès de lui. Quelle joie immense. Merci Seigneur. Et la troisième joie, on peut imaginer, c'est peut-être un petit peu spéculatif, que les disciples, ils sont dans la joie de pouvoir témoigner de Jésus. Parce que imaginez-vous, ils sont un petit groupe de disciples, ils sont réunis à Jérusalem, ils sont persécutés. C'est peut-être pas les meilleures conditions dans lesquelles on peut s'imaginer se retrouver. Mais ce que Jésus leur annonce, il leur dit « Mais vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'au bout du monde. Ce message, cet évangile, il ne va pas s'arrêter, il ne va pas mourir avec vous. Même si vous allez souffrir, il y aura des témoins jusqu'au bout du monde. » Et ça, c'est un immense encouragement, j'imagine, pour un petit groupe de chrétiens qui se sentent persécutés, qui se sentent incompris, qui se sentent seuls. Et bah, je peux vous donner, par exemple, l'exemple, je vous avais parlé des GB Days, cette semaine d'évangélisation qui avait eu à l'UNI et à l'EPFL, qui était organisée par les groupes GBU à l'Université de Lausanne et à l'EPFL. Et puis, à la suite de ces GB Days, il y a eu donc plusieurs centaines d'étudiants qui sont venus aux conférences. Il y a eu des étudiants qui ont décidé de lire la Bible en petits groupes. Il y a un étudiant qui s'est converti aussi. Et du coup, tout ça, c'est des choses qui ont vraiment amené une immense joie dans les groupes. Cette joie de voir que l'Évangile est en marche, que quels que soient les endroits, il n'y a aucun endroit qui n'est pas atteignable par l'Évangile. Et ça, c'est un immense sujet de joie. Des témoins jusqu'au bout du monde, quels que soient les domaines. Et puis j'aimerais terminer en remarquant que cette joie qui remplit le cœur des disciples, elle est peu dépendante des circonstances. Parce que, imaginez-vous, Jésus vient de partir, c'est leur ami, leur maître, celui avec qui ils ont passé tout leur temps pendant 3 ans. On devrait s'imaginer, enfin, si on était des êtres humains un peu un peu normaux, on s'imaginerait qu'ils seraient dans la tristesse, ou je ne sais pas, qu'ils sont vraiment tristes de voir Jésus partir. Peut-être que c'est le cas, mais malgré ça, ils ont une joie, ils ont cette joie, cette grande joie qui remplit leur cœur. Et donc, je nous pose la question, est-ce que nous autres chrétiens, on a toujours cette joie qui prédomine? Je ne dis pas qu'on doit toujours avoir la banane, que la vie elle est toujours rose. Non, il y a des circonstances ultra difficiles dans la vie. Mais est-ce que, malgré tout, dans notre cœur, on a cette joie de se savoir enfant de Dieu, de se savoir proche de Dieu, de se savoir en relation avec lui? Ça, c'est vraiment la question que je nous pose et que j'aimerais, c'est la question à laquelle j'aimerais qu'on puisse réfléchir cette semaine. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta venue aussi, avant tout. Merci Seigneur d'être venu sur cette terre et d'avoir accepté de mourir pour moi, pour nous. Merci de nous avoir réconciliés avec toi. Quelle joie Seigneur de savoir que tu nous acceptes. Quelles que soient nos fautes, tu nous pardonnes. Merci Seigneur. Et merci Seigneur pour la joie qu'on a de savoir que tu es auprès du Père, que tu nous attends et que tu reviendras nous chercher. Quelle immense espérance, Seigneur, de passer l'éternité à tes côtés. Merci, Seigneur, de ton évangile. Merci, Seigneur, de cette bonne nouvelle qui éclaire nos cœurs. Et Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui, en ce moment-là, souffrent de leurs circonstances de vie. Je veux penser à la famille de Claire-Lise, par exemple. Seigneur, accompagne-les et donne-leur, je te prie, ta joie dans ces circonstances difficiles. Seigneur, je te prie pour chacun de nous qui avons des circonstances difficiles dans nos vies, que nous puissions malgré tout être remplis de ta joie qui ne dépend pas des circonstances, Seigneur, joie de se savoir aimé par toi. Et Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne t'ont pas encore découvert. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent découvrir aussi la joie que tu apportes, Seigneur, joie de te connaître. Amen.
Merci Yann pour ce beau témoignage, c'est belle. Et c'est vrai que nous devons nous réjouir de cette joie que le Seigneur nous donne, de sa venue, de l'Esprit Saint, de Jésus qui revient, et d'être témoin là où nous sommes et jusqu'au bout de la terre. Et je vous invite un petit peu à méditer ces paroles de joie, quelles que soient les circonstances de notre vie, au moment où nous sommes maintenant, et que quelques personnes s'expriment après, s'ils en ont envie. Après quoi, Jocelyne et Eric participeront à la scène.